Alors bonjour à tous. Je vous préviens que ce ne sera pas tout à fait une prédication avec une exhortation à la fin, ce sera plus enseignement entre guillemets, ce sera un peu plus long que d'habitude, voilà pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles, chacun d'en juger. Et puis je vais reprendre une partie de ce que j'ai dit la fois passée, parce que peut-être plusieurs n'étaient pas là, et puis plusieurs ont oublié, moi aussi peut-être d'ailleurs, donc voilà. Alors là, je raccroche donc à ce que je disais la fois passée, c'est que la Bible se présente à nous, à son lecteur, d'abord comme un récit, une histoire. Et un récit, une histoire qui peut avoir des effets étonnants. Ainsi, cette histoire que j'avais lue, qui l'illustre très bien, l'histoire du roi David qui a pris la femme d'un de ses généraux et qui a fait tuer le général en question. David, à qui le porte-parole de Dieu vient rendre visite et qui lui raconte une histoire. Il lui raconte l'histoire d'un riche qui avait tout, et ce riche qui a choisi de prendre le bien de celui qui n'avait rien. Et je nous invite à nous mettre à l'écoute de cette histoire à nouveau.
Le prophète Nathan alla trouver le roi David et lui dit : Dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche. Mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan : Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors, Nathan dit à David : Cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël. Je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors, pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites.
Récit poignant et récit qui, à mes yeux, illustre notre situation devant la Bible, une Bible qui nous invite à l'entendre en nous disant, peut-être, cet homme, cette femme, c'est toi, que ce soit dans ce récit ou dans d'autres récits de la Bible. Et récit qui illustre aussi la force potentielle d'un récit. Parce que cette histoire de brebis, c'est probablement une histoire fictive qui est racontée. Mais David en est scandalisé. Le riche, dit-il, mérite la mort. Alors je ne sais pas s'il faut prendre ça de manière littérale, ne serait-ce que parce que juste après, vous le voyez, David parle de restituer, donc voilà, c'est pas tout à fait la mort. Mais quoi qu'il en soit, force d'un récit, force d'une histoire. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, est-ce qu'il ne nous est pas arrivé des choses analogues, quand parfois à l'écoute d'un récit, ça peut être une histoire qu'on nous raconte, ou ça peut être une histoire qu'on nous projette au cinéma, ou qu'on lit dans un livre. Quand un récit, un roman, un film, tout d'un coup nous bouleverse et vient nous tirer presque toutes les larmes de notre corps à ce moment-là. Ou bien qu'il nous heurte et qu'on voit jaillir en nous une colère, une indignation. Et c'est frappant parce que ça, on a beau savoir que c'est un récit fictif, pour un certain nombre de ces récits en tout cas, ça, on est bouleversé quand même. C'est fictif, on le sait, mais c'est comme si l'histoire venait se loger au plus profond de nous-mêmes. Ce phénomène, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, le phénomène de récit fictif qui rejoint avec, je pense particulièrement aux histoires, aux paraboles que raconte Jésus. Voici un extrait d'une. Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Et peu importe ici, peu semble importer qu'il y ait eu factuellement l'agression d'un homme sur cette route. Peu importe, peu semble importer qu'un prêtre soit vraiment passé, et puis ensuite un lévite, et puis un samaritain. Cette histoire, elle parle, même si ce n'est pas de l'histoire. D'où l'importance de se confronter au récit biblique, d'offrir la Bible pour que nos amis, nos relations soient confrontés à ces histoires. Et je passe maintenant à l'étape plus d'aujourd'hui en disant que reste quand même, ceci étant dit, et il faut le dire, mais et reste quand même que les histoires fictives n'ont pas le même poids que l'histoire factuelle. Une histoire a d'autant plus de poids qu'elle est vraie, qu'elle s'est passée. Si on nous raconte au cinéma Bambi, je l'ai pas vu, ça fait trop pleurer, pareil, donc j'ai pas vu. Mais nous pourrons pleurer toutes les larmes de notre corps quand la maman de Bambi, vous voyez déjà j'emploie un langage très humain, la maman de Bambi meurt. Et elle meurt, oui. Voilà. Si on nous raconte Gandhi, même si l'histoire est mal racontée, il y a quand même ordinairement quelque chose qui est de l'ordre du respect. Il y a une épaisseur supplémentaire, même si nous ne versons aucune larme. Et tout lecteur de la Bible se trouve confronté à cette question. Cette histoire qui m'est racontée dans la Bible à telle ou telle page, est-ce que c'est de l'histoire? Car il y a bien les deux dans la Bible, on le voit avec l'histoire de David. On nous raconte l'histoire de David, de Nathan, de Jésus, et ça nous apparaît comme de l'histoire. Mais, enfin, oui, mais David, Nathan, en tout cas Jésus, racontent eux-mêmes des histoires. Et ces histoires qu'ils nous racontent n'ont pas besoin d'être de l'histoire. Je voudrais dire que ce qui va se jouer ici, et ce qui se joue pour nous, c'est notre capacité à reconnaître, à distinguer l'histoire, avec un grand H, et les histoires. Le récit historique et le récit non historique. Et du coup, avec la Bible, on pourra en arriver à autant de questions qu'il y a de textes. Alors je vais prendre quelques exemples, et j'y reviendrai au fur et à mesure. Je vais prendre quatre exemples, deux de l'Ancien Testament et deux du Nouveau Testament. Et je prends des exemples un peu délicats, voilà, ce qui pourra faire que peut-être l'un ou l'autre pourra être mal à l'aise s'il n'aime pas entendre ce genre de questions, mais je crois que les questions sont là, hein, que nous le voulions ou non. Donc voilà, je risque de mettre l'un ou l'autre mal à l'aise. J'espère qu'à la fin du culte, il sera à peu près à l'aise. Sinon, on pourra toujours échanger. Donc deux récits de l'Ancien Testament, deux du Nouveau Testament. Je prends d'abord l'exemple de la description qui nous est faite, eh bien, de la création du monde. Alors, j'ai oublié. Voilà. En six jours. Création du monde en six jours. J'ai mis en bleu les moments où on marque le passage à un autre jour. Donc premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, deuxième jour, etc. Ce récit de la création du monde en six jours, doit-on le prendre à la lettre? Au sens où, oui, il y aurait eu six jours consécutifs, et au premier jour, Dieu a fait la lumière, les ténèbres, le deuxième jour, les cieux, etc. Est-ce qu'on doit le prendre comme ça? Ou est-ce qu'il faut plutôt y voir là un récit poétique? Une parabole. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est le livre de Jonas, dont des extraits là sont projetés, mais je résume l'histoire. C'est le livre nous raconte l'histoire d'un prophète juif que Dieu veut envoyer à Ninive. Donc Ninive, c'est l'Est, hein, c'est ça, c'est la grande puissance, c'est les méchants. À l'époque, c'est les méchants. Tout ça. Et même si ce n'était pas très méchant, c'est des non-juifs, de toute façon. Donc, voilà. Et Jonas est très rebelle. Et Jonas ne veut pas. Et il part dans l'autre direction. Va à l'est, il va à l'ouest. Et bon, il prend le bateau, et il finit par être jeté à la mer. Et là, nous dit le récit, il est englouti par un gros poisson. Au chapitre 2, nous lisons que dans ce qui tient lieu de l'estomac du poisson, je ne suis pas doué en morphologie des animaux, donc c'est peut-être pas un estomac, mais bon, voilà. En tout cas, il est toujours vivant, et puis il décide d'obéir à Dieu, il compose un psaume, le poisson le recrache, Jonas, pour le coup, va jusqu'à Ninive, et il prêche. Et les gens de Ninive se repentent. Question qui peut nous être posée. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou bien, alors là ça peut être désagréable pour vous, mais bon, ben voilà. Ou bien est-ce que c'est comme Pinocchio? En fait, c'est l'auteur Pinocchio qui s'est probablement inspiré de Jonas, donc voilà, le lien n'est pas tout à fait arbitraire. Mais je crois que dès que je prononce le nom ou le prénom de Pinocchio, la difficulté, elle se fait sentir. C'est... En tout cas, est-ce qu'on peut penser qu'un homme a survécu pendant trois jours dans un gros poisson, chapitre 2, verset 1, qu'il y a composé un psaume? Et puis il y a d'autres questions, hein, j'en prends quelques exemples. Peut-on penser qu'une ville païenne s'est vraiment tournée vers le Dieu d'Israël, etc. Ancien Testament, création, Jonas. Nouveau Testament, un autre récit. Y a-t-il eu vraiment un homme riche à la porte duquel se trouvait un pauvre qui s'appelait vraiment Lazare? Et puis les deux sont morts et Lazare s'est retrouvé dans ce que le texte biblique appelle le sein d'Abraham, auprès d'Abraham, dans l'au-delà, et le riche s'est trouvé, lui, exposé à un feu. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé historiquement ? Et puis j'arrive à quelque chose de plus problématique encore. Est-ce que Jésus, Jean-Marc nous a lu quelques extraits d'évangile ? Est-ce que Jésus a vraiment dit, est-ce qu'il a vraiment fait tout ce que les auteurs bibliques nous disent qu'il a dit et fait ? A-t-il fait tous les miracles qu'on raconte ? Et puis, voilà. Et puis, est-ce qu'il est vraiment mort ? Bon, ça va. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité ? Et je dis etc., etc., parce que... Voilà. Donc je vais revenir sur tout ça. Hein. Mais etc., etc., parce que devant chaque récit biblique, la question peut être posée. Alors ce ne sont peut-être pas des questions que nous aimons nous poser, et je l'ai déjà dit, le fait même que je les énonce pourra être dérangeant, je sais bien. Et parfois il est plus confortable de laisser ces questions de côté. Au moins jusqu'à ce que nous rencontrions quelqu'un qui nous les pose. On s'approche de Noël assez souvent, enfin, c'est peut-être de moins en moins le cas, j'en sais rien. Autour de Noël sortent des numéros hors série de revues sur Jésus, est-ce qu'il est vraiment ressuscité, etc. Est-ce que la Bible est vraie ? On n'a pas assez l'occasion de revenir dessus. Donc, mais ce genre de questions sont abordées précisément dans ces revues tout public qui sont dans votre kiosque et... Le discours qu'on tient parfois répond peut-être différemment de ce que nous serions prêts à dire. Donc les questions, si on ne se les pose pas ces questions, et d'autres nous les posent, d'autres les posent, et c'est bien, bien répandu. De mon point de vue, pour certains récits, les paraboles de Jésus par exemple, que les choses se soient passées factuellement ainsi ou pas, ça n'a pas grande incidence. Mais devant d'autres récits, répondre à la question est-ce que c'est une histoire ou est-ce que c'est de l'histoire, ça change énormément les choses. Et quand on pose la question est-ce que Jésus est ressuscité pour de vrai, c'est le contenu même de la foi chrétienne qui est interrogé. Alors je vous propose pour essayer de s'y retrouver, je vous propose deux points de repère. En fait, c'est le premier qui sera le déterminant, hein, mais deux points de repère. Et puis, je reviens du coup sur les exemples à partir de ces points de repère. Le premier point de repère, il dit tout, il dit tout ce que je dirais en résumé. Et en fait, c'est simplement quelque chose que nous faisons spontanément. Je vous apprends rien, je crois. C'est que si j'ai devant moi un récit qui se présente a priori comme un récit historique, eh bien, prenons-le d'abord comme un récit historique. C'est tout. C'est la première chose. Et il faudrait le rajouter, sauf si, tout à coup, des éléments inédits, des éléments complémentaires m'amenaient à y revenir. Je pense que c'est... Et je dis que c'est très simple, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans la plupart de ce que nous vivons, des choses que nous vivons. Quand votre voisin vous raconte une histoire, il vous dit, ben hier, j'étais à Carrefour, j'ai acheté des piles rechargeables. Quand il vous dit ça en général, vous vous dites dans la tête, ben hier il était à Carrefour, il a acheté des piles rechargeables. Sauf, élément complémentaire, sauf si vous avez des raisons d'en douter. Par exemple, si votre voisin, en fait, vous êtes allé le voir chez lui parce qu'il est immobilisé avec deux jambes et deux bras dans le plâtre, bon, sauf s'il y a quelque chose comme ça, ordinairement, sauf si vous savez que le voisin ça tourne pas rond pour une raison X ou Y, ben vous commencez pas à vous demander si le bonhomme est en train de délirer. Vous dites, ben il est allé à Carrefour, il a acheté des piles. Je reviens à un des textes projetés. Le prophète Nathan alla trouver le roi David et lui dit, bon ben voilà, j'ai envie de dire spontanément, le plus spontanément, ce serait de penser mais qu'un jour, le prophète Nathan est allé voir le roi David et qu'il lui a dit quelque chose. Je continue et j'illustre. Hein. Dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Bon, jusque-là, on pourrait se dire que Nathan raconte une histoire qui s'est passée. Par contre, quand on en arrive à « cet homme, c'est toi », là, c'est autre chose, parce que là, nous comprenons, et puis c'est pas simplement nous, c'est David aussi qui comprend. Quand on parlait de brebis juste avant, c'était pas pour parler d'une brebis, c'était pour parler d'autre chose, cette chose qui désigne ici. Tu as assassiné par l'épée Uri, tu as pris sa femme. Donc le récit lui-même vient nous expliquer que c'est une histoire qui nous est racontée. Et là, on comprend qu'on a affaire à une histoire non historique, mais qui fait passer quelque chose, quand même. Je dirais que c'est le même phénomène quand on lit Jésus raconter une parabole. Si on nous dit Jésus raconte une parabole, bon, on peut se dire ça s'est peut-être passé, mais même si ça ne s'est pas passé, ça ne change pas grand-chose. Ça, c'est le premier point de repère. Si j'ai devant moi quelque chose qui se présente a priori comme un récit historique, eh bien, prenons-le comme un récit historique. Trois petits points. Et s'il s'avérait que d'autres éléments m'amènent à y revenir, eh bien, j'y reviendrai. Deuxième point de repère, et c'est là qu'on reste avec des situations parfois un peu délicates, c'est que hors de tout contexte, il est parfois difficile de trancher. Imaginez qu'on ait juste l'histoire de David, de Nathan et de David, et puis que Nathan dise pas « cet homme, c'est toi », etc., mais il juste raconte l'histoire et il s'en va. C'est moins évident. C'est seulement le contexte qui, en fait, nous permet de départager. Le contexte immédiat et le contexte plus large. C'est quand David vient dire « mais je t'ai parlé de brebis », enfin il ne dit pas ça exactement, mais c'est ce qu'il veut dire. Il dit « je t'ai parlé de brebis », mais en fait, il ne s'agit pas de brebis. Hein. C'est d'autre chose dont je voulais parler, c'est de toi, ce que tu as fait. Et quand le texte nous dit « Jésus le raconta une parabole », alors on comprend que l'histoire racontée n'est peut-être pas une histoire qui s'est passée, même si elle pourrait s'être passée. Et parfois on est juste pas sûr. Parce qu'on n'a pas forcément toujours les moyens d'être sûr. J'ai pas le moyen de vérifier d'ailleurs, je reviens à des choses très simples, j'ai pas le moyen de vérifier que mon voisin était à Carrefour hier pour acheter des piles, même s'il n'a pas les quatre membres dans le plâtre. Et parfois, des choses sont disponibles, mais on ne voit pas. Il y a des indices disponibles, mais on ne les voit pas ou on ne sait pas bien les lire. Je reviens du coup pour illustrer certains des textes. Lazare est celui qu'on appelle le mauvais riche. Est-ce que c'est une parabole ou non ? Eh bien, parmi les personnes, peut-être parmi nous, hein, si je faisais le test, mais je ne vais pas faire le test... parmi les personnes qui sont attachées à la Bible, certains disent oui, et puis disent oui, c'est bien ce qui s'est passé, notamment parce qu'on donne un prénom, par exemple. Ça, c'est quand même inhabituel dans un récit biblique de donner un prénom. Dans une parabole, ça peut paraître étrange. Voilà, et donc il y a bien eu un homme qui s'appelait Lazare, et puis dans l'au-delà, c'est bien une description de l'au-delà aussi. Donc certains disent oui, puis d'autres disent non, disent c'est une parabole. Et qu'il y ait déjà cette ligne de partage peut être déstabilisant. Mais j'ai envie de dire, je ne suis pas étonné. Parce que dans le contexte, c'est difficile de trancher. C'est pour ça qu'il y a un trou là sur la diapo. C'est qu'en fait, voilà le contexte. Le contexte, c'est Jésus qui dit qu'il serait plus facile au ciel et à la terre de disparaître. Celui qui divorce avec sa femme et se remarie comme un adultère. Et ça part tout de suite sur cette histoire. Donc ça commence pas par Jésus leur dit une parabole. S'il y avait ça, ben on serait sûr. Enfin, on pourrait dire, bon, voilà. Mais là, c'est juste pas dit. Donc, c'est pas surprenant qu'il puisse y avoir des regards divergents. Ça démarre sans prévenir. Et j'ajoute non seulement que c'est pas... Alors, là aussi, je voudrais, ça m'a aidé, moi, à me dire que ce que je... trouve dans les récits bibliques, en fait, je le trouve quotidiennement dans ma vie quotidienne. C'est pas surprenant qu'on sache pas toujours, parce que c'est très commun. Ça remplit notre vie quotidienne. Est-ce que vous savez toujours si votre voisin qui vous a raconté qu'il est allé acheter des piles rechargeables, est-ce que vous savez toujours vous dire, mais en fait, est-ce que c'est vrai? Parce que si vous rentrez chez vous, vous racontez ça à votre conjoint ou à un autre ami, et puis l'autre va dire, mais c'est vrai ce qu'il a dit là? Et puis vous n'étiez même pas posé la question. Et quand vous la posez, je fais comment pour savoir? Je lui demande son ticket de caisse. Est-ce que vous savez toujours infailliblement si ce que votre voisin vous raconte s'est passé? Et que ça s'est passé comme il le raconte? Et puis pour ceux qui sont parents parmi nous, est-ce que vous savez toujours si ce que vous racontent vos enfants est vrai? Moi, je ne savais pas. Hein. Et puis il y a quelques jours encore, pour illustrer, j'écoutais ce qu'une personne me racontait de sa vie spirituelle. Alors, j'avais vraiment aucun doute sur la sincérité de la personne. Alors ça, pas de problème, je n'allais pas lui dire « t'es une menteuse » ou « t'es un menteur », j'allais rien dire à ce propos. En même temps, c'était, excusez-moi le langage, suffisamment inhabituel, et c'est là que je m'en vais excuser, ou suffisamment zarbi, c'est-à-dire bizarre, pour que je me demande vraiment si c'était arrangé dans le cadre du réel ou dans le cadre de l'imaginaire, pour ne pas dire du psychiatrique. C'est vraiment... Je n'en savais absolument rien. Et aujourd'hui encore, je n'en sais encore rien et je crois que je n'en saurai rien jusqu'au dernier jour. Mais il se trouve simplement que je ne suis pas Dieu. Heureusement. Pour tout le monde. Donc cette difficulté cette situation qu'on a devant un récit biblique, mais c'est ce qu'on vit quotidiennement. C'est pas si anormal que ça, c'est juste comme ça. Exemple de texte où on peut se questionner, je crois. Eh bien, je reviens maintenant au récit de la création. Alors pour dire quand même au passage, parce que c'est quand même l'essentiel, là je m'attarde sur les difficultés, mais bon. En fait, l'essentiel dans ce texte, je crois l'essentiel, c'est de nous dire que Dieu a tout créé. Et avant de nous fâcher les uns avec les autres en disant « ouais, c'était en 6 jours », non, c'est pas en 6 jours de 24 heures, etc., peut-être mesurons quand même qu'on a quand même l'essentiel en commun, hein, je dirais. Donc, l'essentiel ne fait aucune difficulté. Tout le monde est unanime à ce propos, sauf des personnes qui veulent pas de la Bible et qui disent « non, tout ça c'est du baratin, j'y crois pas ». Mais ça, c'est pas ma préoccupation là maintenant. Par contre, donc voilà, unanimité sur l'essentiel, le message, Dieu a tout créé, rien ne lui échappe, voilà. Les astres qui, dans le monde païen de l'époque, étaient des divinités, et on les regardait avec respect, comme certains regardent l'horoscope aujourd'hui, etc., ben, on dit c'est Dieu qui les a mis, comme des luminaires dans le ciel. Donc, par rapport à Dieu, c'est zéro, c'est que dalle. C'est Dieu le créateur, c'est Dieu qu'il faut adorer. Voilà. Là, pas de preuve, pas de... Là où il n'y a pas unanimité, c'est pour dire, est-ce que ça s'est passé en 6 fois 24 heures chrono, temps réel? Alors je ne suis pas surpris que certains vont dire oui, vont répondre oui, le texte semble bien se présenter ainsi. Et je ne suis pas surpris que certains finissent par conclure que non. Alors je donne, il y a plusieurs éléments qu'on pourrait donner, mais bon, bref. Mais je donne un élément, par exemple, parce que quand on continue à lire la Bible, et qu'on arrive au Nouveau Testament, qu'on arrive à l'Évangile de Jean, au chapitre 5, hein, il y a un passage, tout à coup, on découvre un passage qui pourrait peser. Au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, Jésus a guéri un malade, c'est le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, hein. Le jour où, dans la tradition juive, dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné qu'on arrête toute œuvre. Et on arrive au verset 16 du chapitre 5, et on lit cette phrase qui a toujours été énigmatique pour moi. Voilà. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Car je ne vous demande pas d'être d'accord avec ce que je vais raconter. Hein, de toute façon, mais ce que j'entends ici de mon côté, en tout cas pour ce texte-là, après le, c'est vous me reprochez, il est accusé d'avoir fait quelque chose le jour du sabbat. Et Jésus répond à l'accusation. Il essaie de dire, votre accusation ne tient pas la route. Vous me reprochez d'avoir été à l'œuvre le jour du sabbat. Hé, J'imite simplement Dieu, mon Père. Ça veut dire, mon Père est à l'œuvre le jour du sabbat. Il est à l'œuvre jusqu'à présent. Je ne fais que ce que Dieu fait. Et probablement, alors là, ça peut aussi se discuter, mais probablement, si Jésus... Pourquoi Jésus dit que Dieu est à l'œuvre le jour du sabbat? Je peux comprendre que certains se disent, tout d'un coup, quand je reprends le récit de la Genèse, je me rends compte qu'à la différence des 6 premiers jours, où il y a à chaque fois, ce fut le deuxième, il y eut un soir et un matin, il y eut un soir, ce fut le deuxième, etc., ce fut le sixième, il n'y a pas, pour le septième jour, une phrase qui dirait, il y eut un soir, puis un matin, et ce fut le septième jour, et le septième jour est clos. Peut-être le jour du sabbat n'est pas terminé, et ce qui permet à Jésus de dire ce qu'il dit. Et Jésus peut dire, mon Père agit, et moi aussi. Donc peut-être ce septième jour ne dure pas 24 heures. Et donc si le septième jour ne dure pas 24 heures, mais qu'il s'étend de la création à maintenant, peut-être les 6 premiers jours non plus ne duraient pas 24 heures. Je ne vous demande pas d'être convaincu par un côté ou l'autre. Je ne suis pas surpris que certains disent oui, c'était des 6-7 jours de 24 heures, et que d'autres disent, Bible en main, c'était peut-être pas des jours qui ont duré 24 heures. Je n'en suis pas surpris. J'arrive à Jonas. Que dire à propos de Jonas ? Alors je vais dire deux choses. La première, c'est que des personnes que je respecte, dont je suis, je vais pas dire que c'est pas des chrétiens, c'est pas leur attachement à Dieu, je n'en doute pas, je les admire sur bien d'autres points. Donc des personnes voient dans cette histoire de Jonas simplement une histoire qui s'est pas forcément passée comme ça. Je peux l'entendre, c'est pas ce que je crois, je vais le dire comme ça, mais je peux l'entendre, mais je veux pas les mettre sur le bûcher pour ça. Mais si quelqu'un veut les mettre sur le bûcher, je vous donnerai leur adresse. Non, mais je peux comprendre que ça, pour certains d'entre nous, il y a tellement en jeu que ça soit difficile à. Donc je peux l'entendre. La deuxième chose, c'est que, mais là encore, quand je lis le récit de Jonas qui n'a pas de contexte. Parce que le récit de Jonas, il n'y a rien qui est dit avant et après, c'est un récit à part entière, c'est un livre à part entière dans l'Ancien Testament. Donc quand on le prend, on n'a pas beaucoup d'éléments de contexte qui nous permettraient de dire « Ah !» Donc il faut continuer la lecture. Et puis, quand je continue la lecture, quand je vois la façon dont Jésus fait référence à cet épisode, donc je suis conduit de mon côté à privilégier le caractère historique de ce récit. Et donc je vais m'expliquer. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, au verset 38 et suivant, nous lisons ce passage suivant. Jésus est confronté à nouveau à des accusateurs ou des... Non, là, ils accusent pas, mais bon. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit, ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux. Un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme, il parle de lui là, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or ici, il y a plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera avec ces gens de notre temps et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or ici, il y a plus que Salomon. sous-entendu, il y a moi. Donc ici, Jésus interpelle ses interlocuteurs en s'appuyant sur deux récits anciens, le récit de Jonas et le récit de la visite d'une reine auprès de Salomon, la reine du Midi. Donc ça, c'est une première chose. Et puis je nous rends sensible au fait qu'il le fait dans un cadre où ce qui est en jeu, c'est ni plus ni moins que la destinée finale de ses auditeurs. C'est celle de personnes qui lui demandent des signes, mais j'ai pas lu le contexte, mais vraisemblablement c'est des personnes qui ont déjà, juste avant, été témoins de guérison, verset 15, de la délivrance même d'un homme qui était rendu aveugle et muet. Donc ils en ont vu, les signes qu'ils ont demandé, ils en avaient déjà à l'appel, enfin je pense le trait. Donc sous un mode peut-être apparemment respectable, moi, écoutez, je ne veux pas croire à n'importe quoi, donc j'ai besoin de garanties. Si tu peux faire encore un signe, là, juste un de plus. Derrière ce qui pourrait paraître respectable se cache, en tout cas aux yeux de Jésus, un attachement délibéré au mal, une résistance à Dieu. Et pour reprendre une formule d'un philosophe, j'avais envie de donner un clin d'œil amical à l'un d'entre nous, mais je ne peux pas. Pour reprendre une formule du philosophe Pascal, français. Il dit, qui défend la foi chrétienne dans les pensées, hein. Il dit, il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ne veulent rien voir. Et j'entends quelque chose de un peu comme ça de la part de Jésus, vous avez déjà suffisamment de lumière, vous n'en voulez pas. Vous serez jugé d'autant plus sévèrement. Et Jésus le fait sentir, là c'est pas de la communication non violente, hein. Jésus le fait sentir, il y va fort, puisqu'il dit « Les habitants de Ninive, la reine du Midi ». Donc ce sont des non-juifs qu'un juif méprise. Et ces gens-là, ils ont écouté Dieu. Ils ont fait mieux que vous. Vous qui êtes juifs, vous qui êtes le peuple de Dieu, cocorico, vous ne voulez pas écouter ce que j'ai dit. Au jour du jugement, leur sort risque d'être meilleur que le vôtre. Prenez garde. Et ça pourrait être comme s'il nous disait quelque chose comme eh bien, ces gens que vous méprisez, ces racailles, ces jeunes des banlieues, en attendant que ce soit les vieux des banlieues, hein, on sait rien, mais bon. Ces intégristes, ces musulmans fanatiques, ces noirs, ces arabes, ces blancs, ces bonnes femmes idiotes, ces crétins de machos. Bref, chacun mettra le nom qu'il veut, hein, de tous ceux qu'il méprise. Eh bien, ceux-là, à ce moment-là, ils y ont vu plus clair que vous. Au jour du jugement, ils se trouveront peut-être de l'autre côté, et vous, ben, vous risquez de ne pas être du côté auquel vous vous attendez à être. Donc ça. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire que vu la teneur de la mise en garde, je suis bien porté à penser que Jésus fait référence à des choses qui ont bel et bien eu lieu. Parce que si Jésus parlait, voilà comment je vois les choses, hein, si Jésus parlait de quelque chose d'aussi réel que Pinocchio, je me dis que la mise en garde n'aurait pas la même solennité. Voilà pour Jonas. Alors c'est évidemment, et je termine par là, avec la question des récits à propos de Jésus, et notamment, surtout, sans doute, de la résurrection, que la question, est-ce que c'est de l'histoire, ou bien est-ce que c'est des histoires, va se poser avec le plus de vivacité, d'acuité. Si c'est une histoire, si c'est un conte, on va être plus gentil. Si c'est une parabole, c'est moins connoté. Mais si Jésus est ressuscité dans le cœur des disciples, comme je l'ai entendu, je vous l'ai déjà raconté, pour ceux qui connaissent déjà cette histoire. Si Jésus est ressuscité, oui, il est ressuscité dans le cœur des disciples. Sous-entendu, le cadavre de Jésus était toujours dans le tombeau. Si Jésus était ressuscité dans le cœur des disciples, comme disait une professeure de Nouveau Testament que j'écoutais il y a quelques années, tout en plaidant qu'on pouvait quand même être chrétien, Alors j'ai envie de dire que de mon point de vue en tout cas, l'apôtre Paul ne voyait pas les choses de cette façon. C'est bien sûr le chapitre 15 de 1 Corinthiens qui est consacré à la question de la résurrection, où il fait mesurer tous les enjeux de la réalité de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité réellement, alors notre foi est vaine. Ni plus ni moins. Si le Christ n'est pas ressuscité, ben, on perd notre temps, hein, frère et sœur. Je ne sais même pas si je peux vous appeler frère et sœur, c'est parce que là, ce qui nous fait frère et sœur, c'est quelque chose qui ne se serait pas passé. Alors, mais voilà, on perd notre temps ici ce matin. C'est ce que dit Paul. Hein. Et il dit, nous sommes toujours dans nos péchés. Après avoir écouté cette preuve du Nouveau Testament, cette nuit-là, étrangement, c'est étrangement parce que ça m'est arrivé que je crois qu'une fois dans ma vie, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai comme entendu une voix qui disait, qui dialoguait avec la prof en question, et qui disait, j'entends bien que pour vous, Jésus n'est pas ressuscité pour de vrai. J'entends bien ça. Mais s'il vous plaît, juste un instant, supposons, juste un instant, peut-être, qu'il se soit passé ce qui est impensable pour vous. Supposons que Jésus soit vraiment, vraiment ressuscité. Pas dans le cœur, qu'il soit sorti du tombeau. Comment est-ce qu'il aurait fallu que les apôtres nous le racontent pour que vous soyez disposés à l'entendre? Juste à l'entendre déjà. Et peut-être aussi à y croire, à vous laisser bouleverser par ça. Pour ce qui me concerne en tout cas, je ne vois pas comment ils auraient pu nous raconter l'histoire de la vraie résurrection autrement que comme ils l'ont fait. Alors du coup, pour moi en tout cas, je reprends à mon compte quelques paroles d'un cantique ancien. Ah, je suis en train d'éteindre, mais j'ai le texte. Redites-moi l'histoire de mon divin sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes toujours dans nos péchés. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Et je nous invite, nous aussi, là où nous sommes, à redire cette histoire de Jésus.
Redire l'histoire de Jésus, redire l'histoire de Jésus, c'est aussi pour moi parler à son Père comme lui-même s'est adressé à son Père, avec respect et liberté. C'est pour ça que je vous invite à chanter notre Père, la prière qu'il a enseignée, non pas comme une récitation, mais comme une structuration d'une pensée, d'une relation avec lui. Je vous invite à chanter avec moi notre Père. Abba Père. Abba Père.
Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père.